Grand événement le 1er juin prochain sur la chaîne Twitch d'Arte, une émission Europarty, un jeu de rôle avec Fibre Tigre et plein d'invités exceptionnels. J'aurai le plaisir de présenter cette émission devant le Théâtre de la Concorde à Paris. C'est gratuit, il y a plus de 600 places, il reste des places. Rendez-vous sur le lien With Event en description. Chers amis, je vous propose qu'on commence en fanfare avec une invitée de la semaine exceptionnelle. Elle est autrice d'un livre sur la télé-réalité. Elle est journaliste et autrice. Je vous demande d'accueillir Constance Villanova. Bonjour Constance.
Bonjour.
Est-ce que tu vas bien?
Ça va super.
Je suis très contente de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir accepté notre invitation.
J'ai mis du temps, hein. J'ai réfléchi beaucoup. Et j'ai fini par dire oui.
C'est vrai ça que c'est une émission subversive.
Bah, je...
C'est compliqué, intensable.
Il y a des pièges.
Il y a des traces sur Internet après. Constance, je le disais, tu es l'autrice d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous ». C'est aux éditions J.C. Lattès et c'est un livre que tu consacres à un phénomène intéressant qu'on appelle la télé-réalité.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Comment c'est
Moi, je suis une grosse consommatrice de télé-réalité depuis petite et je me cachais de mes parents parce que je suis fille d'auditeur d'Inter et de lecteur de Télérama, donc c'était complètement proscrit et donc je me cachais et j'ai commencé vraiment à accrocher à partir de 2010 avec Les Anges. Et j'ai voulu interroger cette addiction qui contredit complètement mon engagement féministe et la vague que je me suis prise dans la gueule avec MeToo en 2017. Donc voilà, le point de départ, c'est la contradiction entre cet engagement et ma surconsommation de ces programmes qui sont quand même ultra sexistes et problématiques.
Qu'est-ce que tu appelles télé-réalité? Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a des programmes qui rentrent, qui sortent? Comment?
Alors, tout est télé-réalité. En fait, la télé-réalité, elle est partout. C'est à la fois Koh-Lanta, Top Chef, The Voice, Mask Singer.
Mais moi, c'est News.
Ouais, c'est News, TPMP. Non, mais celle à laquelle je me suis consacrée vraiment, c'est les émissions quotidiennes de vie collective.
Ok.
Et donc, ça, c'est ce qu'on appelait autrefois la télé-réalité d'enfermement. Bon. Qui n'est plus de l'enfermement parce que maintenant ils vont faire du paddle à l'extérieur et ils vont en boîte de nuit. Et donc, c'est celle qui passe sur la TNT à 17h30, à l'heure du goûter, les Marseillais, la Villa des Cœurs Brisés, les Anges.
Les Princes de l'Amour.
Les Princes et les Princesses de l'Amour, ma passion. Voilà, tout ce qui est. En fait, l'idée, c'est mettre 15 jeunes dans une villa et les voir s'engueuler généralement.
Mais à quel moment tu t'es dit que tu allais en écrire un livre?
Parce qu'en tant que journaliste, j'ai commencé à écrire des enquêtes à ce sujet-là quand il a commencé à avoir des révélations sur les violences sexistes qui s'y passaient, qui se passaient dans ce milieu. Et je me suis dit que je voulais pas faire qu'une simple enquête, je voulais montrer dans ce livre que la télé-réalité nous avait tous et toutes influencés, même ceux qui ne la regardent pas. Mmh. Et je voulais interroger aussi comment toutes ces images que j'ai vraiment surconsommées avaient... construit un peu trentenaire que je suis, pleine de contradictions, féministe mais qui passe sa vie à la salle de sport pour éviter le vieillissement, voilà, ce genre de contradictions.
Tu l'as dit, c'est effectivement une télé qui est considérée comme vulgaire, qui est considérée comme méprisable,
ouais,
par l'intelligentsia. Est-ce qu'il y a des travaux de chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène?
Oui, il y en a quelques-uns, mais même dans la recherche, c'est ce corpus est snobé. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que déjà c'est un angle mort médiatique, c'est un angle mort militant et c'est un angle mort universitaire. Alors il y a Nathalie Nadeau-Albertini qui est l'une des rares chercheuses qui travaille dessus, qui est sociologue et sémiologue. Il y a François Jost qui s'est intéressé au Loft, mais ça a 20 ans. Ouais. Et il y a une super chercheuse qui s'appelle Maureen Lepers, qui est docteure en audiovisuel et qui est prof à Paris 3 et qui a participé à un épisode de podcast de Binge Audio qui s'appelle Les Anges Hétéros de la télé réalité que je vous conseille, qui est hyper intéressant.
Ok, cool.
Mais c'est méprisé et ceux qui essayent de spécialiser là-dessus me racontaient à quel point leur mémoire, leur sujet d'étude était mal vu par leur père. Après, il y a une nouvelle génération qui sait que la pop culture, que la culture de masse, c'est aussi un objet d'étude. Et donc, il y a de plus en plus de mémoires et d'étudiantes particulièrement qui consacrent leur mémoire à la télé-réalité.
Sacha ?
Du coup, pour contrer un peu ce snobisme vis-à-vis de la télé-réalité, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a de l'importance d'étudier la télé-réalité, oui, en tant que... un objet d'étude sociale, en fait, et pourquoi c'est important ou pas de le rattacher à la société? Est-ce que c'est pas trop en faire aussi que de trouver des liens avec la société tout le temps, dans tout, tu vois? Enfin...
On peut pas éviter la télé-réalité, et moi, ce que je défends, c'est pas forcément les programmes en tant que tels, c'est que ces programmes-là toxiques, on les a laissés à 17h30 tous les jours être diffusés pendant 20 ans, en fait. Et parce que les médias n'ont pas joué leur rôle, et parce que les médias n'ont pas alerté particulièrement les parents qui ne sont pas là à 17h30 pour regarder ce que leurs enfants regardent et pour vérifier, on a laissé ce discours toxique infuser toute la société, en fait. Et donc, c'est un objet d'étude important parce qu'il est, il est à l'intersection de toutes les luttes. Donc, évidemment, de la lutte contre le sexisme. Mais on rappelle que c'est des castings qui sont très blancs. Il y a très peu de candidats noirs. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions racistes sur des tournages. La lutte aussi contre le mépris de classe, c'est le classisme, parce que c'est des programmes qui capitalisent sur le mépris de classe. Depuis Loana, la gagnante du Loft en 2001, chaque boîte de prod cherche sa Loana. Et donc, vont
la
chercher...
La poule aux œufs d'or qui va rapporter pendant
et
longtemps.
Et donc, vont aller chercher dans les classes populaires et vont faire des séquences sur les fautes de français, les tests de culture générale, moquer les accents régionaux. C'est aussi un objet d'étude très intéressant pour disséquer aussi tout le discours homophobe, lesbophobe, transphobe qui infuse aussi la société. En fait, c'est un miroir grossissant de toutes les failles de notre société. C'est pour ça que c'est intéressant à observer. Et encore une fois, je ne défends pas ces programmes-là. Et je vois dans le chat, oui, je n'ai pas parlé de Valérie Robert aussi, mais Valérie Robert qui a écrit, qui est vraiment celle qui a vulgarisé le sujet, particulièrement sur les réseaux sociaux, et qui a écrit ce super bouquin qui s'appelle « Téléréalité, la fabrique du sexisme » sorti aux Insolentes, et qui est vraiment une précurseuse en termes de vulgarisation. Donc oui, et pour revenir à l'autre sujet, ouais. Vraiment, je ne défends pas du tout ces programmes, j'essaye de comprendre pourquoi ça marche et pour comprendre pourquoi on n'en a pas parlé surtout.
J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait « Moi, je regarde pas et je me sens pas du tout influencé par ça. » Comment tu peux nous expliquer en quoi, selon toi, la télé-réalité a une influence sur ceux qui, y compris sur ceux qui ne la regardent pas ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens disent ça. Enfin, quand je fais des interviews, il y a beaucoup de réflexions. La solution, c'est juste de pas regarder. Moi, je l'ai jamais fait. Et y a ça, je trouve que ça suinte aussi un peu de snobisme. Enfin, voilà, c'est un phénomène de distinction sociale, oui. De dire « Moi, je n'ai jamais regardé télé-réalité. » Malgré nous, on en a quand même regardé. Pourquoi ? Parce que à partir de 2013 et l'avènement d'Instagram, les candidats sont devenus des méga influenceurs. On parle de candidats qui ont parfois des 6, 7 millions d'abonnés. Ouais. Donc on a forcément vu leur contenu dans notre fil Instagram. Et puis surtout, ça influe dans notre langage, ça influe sur la façon dont on va percevoir le corps féminin aussi. Enfin voilà, même sur les codes de la télévision en général. Par exemple, vous savez, le gimmick du confessionnal où il y a ce candidat face cam qui va raconter sa journée et redire ce qu'on a déjà vu d'ailleurs, ça se retrouve maintenant dans les documentaires. Et puis ça a aussi influencé la façon de nous mettre en scène. Maintenant, avec notre smartphone, grâce aux réseaux sociaux ou à cause, on peut tous être candidat de notre propre télé-réalité. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est Poupette Kenza, qui est cette influenceuse
quoi,
qui donne la nausée, apparemment.
Je ne suis pas un poupettos. Ne me regarde pas comme ça, Constance.
Je vous regarde tous.
Après, c'est vrai que je connais les aventures de Seyana, Alan.
Mais voilà,
elle a dû voir toutes nos mines
consternées. Qui est la plus suivie de Snapchat et qui a fait de sa vie privée une télé-réalité. On la voit faire ses courses à grands frais. On la voit parler de ses hémorroïdes tout en coiffant ses enfants. Et en fait... c'est pareil pour le phénomène, enfin pour nous, la mise en scène de notre mise en scène. Je pense au crying selfies, le fait maintenant de se prendre en photo en pleurant, ouais. De chroniquer sa rupture tous les jours, de mettre des séquences et de faire des edits sur TikTok. En fait, la télé-réalité, elle a créé un jeu JE surdimensionné et elle a fait du narcissisme une valeur reconnue et positive.
Est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à la télé-réalité lorsqu'on se dit que, en disant qu'elle est le reflet de la société ? Est-ce que la télé-réalité essaye même d'être le reflet de la société ou est-ce que c'est complètement mis en scène par les boîtes de prod ?
Je pense que c'est les deux. Enfin, ça dépend de quelle télé-réalité on parle, en fait. Et je pense que les deux s'influencent. C'est-à-dire que la télé-réalité s'inscrit forcément dans une société donnée, une société qui est patriarcale et donc le sexisme y est exacerbé. Comme je dis, c'est un miroir grossissant, ouais. Selon moi. Et en plus, elle va l'influencer. Donc, en fait, c'est une sorte de cercle vicieux.
Léa ?
Moi, je me posais la question, c'est quelque chose évidemment qui t'a pas échappé. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant fasciné par ça, tu vois ? Et par finalement le quotidien des gens qui est pas si excitant que ça, la vie des autres qui est pas si excitante que ça, savoir qu'ils font caca à telle heure et qu'ils se brossent les dents comme ça, enfin je veux dire, c'est quand même dingue quoi. Comment on peut expliquer ça ?
En fait, je pense que déjà, comme c'est dans télé-réalité, il y a réalité, donc on va s'accrocher plus et s'attacher plus aux personnages parce que, bon alors maintenant c'est devenu des semi-comédiens parce que c'est très scripté, mais on va s'attacher aux personnages qui sont censés être réels, censés être vrais et authentiques. Et l'authenticité, ça plaît énormément. Donc, on va s'attacher à ces personnages-là qui, en plus, auparavant, ne faisaient qu'une télé-réalité et retournaient à leur vie normale. Maintenant, être candidat, c'est un métier. Donc, tu vas suivre Maëva Guénam dans les Marseillais, dans le Cross, dans la Villa des Cœurs Brisés, sur ses réseaux sociaux. Enfin, la narration, elle est perpétuelle, en fait. Donc, tu t'attaches à ces personnages-là. Et puis, les scénarios mis en place, les stimuli mis en place font que c'est des séquences, il y a de la séquence en permanence et bah en fait ça marche très bien. Il y a du teasing avant la pub, après la pub, entre les épisodes. Et je pense aussi que c'est d'une telle violence et d'un tel sexisme et d'une telle vulgarité parfois que il y a un côté un peu cathartique de dire bah en fait je ne peux pas faire ça dans la vie et ça me soulage de voir ça.
Tu penses qu'il y a un petit phénomène d'identification aussi ?
Oui, je pense qu'il y a un phénomène d'identification, il y a un phénomène aussi de répulsion. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont regarder la télé-réalité pour se distinguer des classes sociales qui la font, en se disant, en se rassurant et en se disant ah moi je ne suis pas comme ces gens-là. Donc il y a plein d'explications. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous honte de regarder ces programmes-là. Et donc, on est tous un peu snob par rapport à ces programmes-là. Et pourquoi on est snob, encore une fois, c'est parce que c'est les classes populaires qui sont mises à l'écran.
Il y a peut-être le côté aussi, tout le monde peut devenir une star, en fait.
Oui, il y a ce côté-là. La télé-réalité, elle a bouleversé notre rapport à la notoriété. En fait, avant, il y a les télécrochets, évidemment, mais maintenant, il n'y a plus d'autre talent que d'être soi-même. Et donc, c'est un tremplin formidable pour ceux qui veulent devenir célèbres et qui ne savent pas chanter, danser. Après, faut quand même un certain talent pour faire 10 ans de télé. Et une intelligence sociale pour réussir à se bâtir un empire. Alors, je ne défends pas le modèle ultra-libéral des influenceurs de télé-réalité, mais voilà, il y en a qui jouent aussi les douces idiotes pour créer de l'empathie, mais qui derrière sont des vrais businesswomen.
C'est intéressant ce phénomène de professionnalisation, pardon d'enchaîner, mais c'est fou quand même de voir comment ça s'est professionnalisé en fait.
C'est devenu un tremplin en fait, la télé-réalité maintenant.
Bah oui, c'est ça, tu parlais de méga influenceurs, ils ont été lancés par la télé-réalité et ensuite ils ont prospéré sur les réseaux sociaux.
Je me permets, en réalité, c'est plus vrai, le circuit de tremplin, c'est plus vraiment le cas parce que le circuit des candidats de télé-réalité s'est fermé en fait depuis quelques années, puisqu'il y a le recyclement des candidats d'émission en émission. Donc, et compliqué aujourd'hui de se dire, ah, ça peut être un tremplin pour moi, surtout que maintenant, les casteurs, ils vont sur Instagram pour aller caster les mecs.
Hein, en fait, il y a eu plusieurs phases. Avant, c'était des castings sauvages, en boîte de nuit pour aller chercher des Loana, donc des gogo danseuses. Et il y avait une étude du CSA. Il n'y a qu'une étude qui est sortie en 2014 qui montrait que la majorité des candidates étaient issues du monde de la nuit ou étaient conseillères de vente, barmaid et gogo danseuses. Ensuite, il y a eu les castings sur les réseaux sociaux. Il y a une casteuse, par exemple, elle m'a dit qu'elle trouvait les candidats sur des applis de rencontres et je trouve ça assez marrant.
Je te confirme, j'ai une pote qui est casteuse et qui est sur les applis de rencontres pour ça, alors qu'elle est maquée. Mais...
Parce que tu vois que c'est des gens qui cherchent un peu l'amour et des aventures. Et maintenant, c'est vrai que ça se fait beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Autrefois, la télé-réalité servait de tremplin pour créer une communauté, sachant que les candidats gagnent plus en placement de produits qu'en tournage. Maintenant, ils vont aller chercher des influenceurs pour faire de la télé-réalité. En fait, ça s'auto-alimente complètement.
Les politiques s'étaient intéressés à la télé-réalité au moment du Loft. Cet énorme phénomène qui a été le Loft en 2001, ça a fait polémique. Et depuis, plus rien. J'ai jamais entendu de politique s'intéresser à ça.
Il y a eu Frenchy Shore quand même. Il y a eu la ministre de la Culture qui a soulevé. Donc Frenchy Shore, qui est une émission de télé-réalité qui est la plus trash. L'émission la plus trash de ces 20 dernières. De l'histoire, finalement. Qui reprend la franchise Jersey Shore. Donc, c'est 8 candidats qui vivent dans une maison dans le Cap d'Agde. C'est moins de 16 ans et moins de 18 ans. Et c'est ultra trash, ultra sexuel, ultra violent. Et la ministre de la culture de l'époque, je crois que c'était...
Rima Abdoul-Malak.
Oui, c'est ça, Rima Abdoul-Malak avait dit dans les colonnes du Parisien que c'était inquiétant et que ça permettait aux ados d'accéder au porno. Donc, je pense que les ados n'ont pas attendu Frenchy Shore pour regarder du porno. Surtout que les scènes de sexe étaient floutées. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a rendu un peu dingue. C'est que pendant 20 ans, la culture du viol, les discours sexistes ont eu leur place à 17h30, à l'heure où les gamins mangent leurs céréales devant leur écran. Et il a fallu attendre Frenchy Shore, qui est une émission certes trash, mais avec une signalétique qui est sur une plateforme et qui n'est pas diffusée tous les jours, pour que un ministre s'en empare. Et autre point où les ministres s'en sont emparés, c'est quand il y a eu l'affaire Magali Berda-Bouba, donc l'affaire dite des influx voleurs, où on a découvert l'étendue des arnaques commises par ce type d'influenceurs-là, donc ces influenceurs candidats. Et là, tout de suite, branle-bas de combat au niveau des politiques. Il y a une loi qui a été faite très vite. Et je trouve ça assez dingue que, parce que des consommateurs aient été bafoués, le gouvernement s'est tout de suite agité. En revanche, le fait que beaucoup de candidates soient victimes de violences sexuelles et sexistes, bah ça fait toujours pas parler au niveau des politiques.
Il y avait eu un MeToo télé-réalité, je me rappelle, de Rania, Raouel, Alix, toutes ces femmes qui avaient pris la parole, et il y avait eu un silence total des politiques à ce moment-là.
Mais oui, parce que ce sont des mauvaises victimes, en fait. Il y a toujours ce côté, elles sont issues de classes populaires. En plus, elles vont dans des émissions où elles sont souvent hyper sexualisées malgré elles, et il y a toujours ce « elles l'ont bien cherché ». Et donc, en fait, même les féministes ont mis du temps à s'emparer de ce sujet. Et comme je disais, heureusement qu'il y a Valérie Robert ou Ilana Weisman, qui est sociologue, qui a fait des chroniques super à ce sujet-là pour le site Mademoiselle. Même en tant que militante, on a mis du temps à considérer ces jeunes femmes qui ont parlé bien avant MeToo. Sauf que leur seule caisse de résonance, c'était les blogueurs télé-réalité qui ne sont pas franchement armés pour décrypter les mécaniques des violences sexuelles.
Après, il y a eu des évolutions aussi dans la télé-réalité. C'est que maintenant, les candidats sont payés, sont rémunérés, sont salariés à l'issue d'un combat qui a été quasi syndical. Oui. C'était au moment de Koh-Lanta, je crois, me souvenir.
Je crois que c'était l'île de la Tentation.
Ah, c'est une autre île.
Exactement.
C'est l'île de la Tentation. Les candidats s'étaient battus auprès de la prod, devant les tribunaux, pour une requalification en CDD ou en CDI. Des heures qu'ils avaient passées, et il y a eu un arrêt qui leur a été favorable de la Cour de cassation.
Maintenant ils sont salariés. Après, il y a un fantasme autour de leur paye. Alors, les mastodontes et les candidats emblématiques de ces programmes-là sont très bien payés. Mais là, j'échangeais récemment avec Ouriel, qui est une candidate de Frenchy Shore, et en fait, elle a gagné pas mal, mais c'était pas non plus dingue. Et surtout, après, on retourne à sa vie normale. C'est très compliqué de trouver un job quand on a participé à une télé-réalité. C'est très compliqué de se détacher de cette image négative. Et généralement, on est face aussi à des publics à qui on n'a pas forcément appris à gérer leur argent et à gérer une telle richesse d'un coup. Donc, qui vont aussi pas mal claquer très vite tout cet argent, en profiter. Et donc, ça fait pas non plus vraiment bouffer, quoi. Enfin, faut enlever ce mythe-là. C'est beaucoup de travail. Alors, certes, on est nourri, logé, blanchi. Mais on est filmé tout le temps, il faut être tout le temps au taquet, il faut créer de la séquence, c'est assez épuisant.
Léa ?
Je me posais la question, est-ce que tu as eu l'opportunité d'analyser l'impact de la télé-réalité sur les codes de la communication politique ?
Alors,
au-delà, tu vois, de l'émergence, bien sûr, de l'avènement des réseaux sociaux, etc., est-ce que tu penses qu'il y a un peu de...
Mais complètement. Je pense que Rachida Dati est candidate de télé-réalité, déjà, je veux dire. La culture du clash, en fait, je trouve qu'on la retrouve complètement
au sein de l'émission.
Dans les débats, et dans les débats filmés. Je trouve que le côté, la recherche de la punchline qui va circuler sur les réseaux, à l'instar de ce qui se fait en télé-réalité, parce qu'en télé-réalité, on cherche de la séquence, on le retrouve complètement dans les débats politiques. Et je trouve que d'ailleurs, ça sclérose complètement le débat, parce que ça va être la recherche de la petite phrase et le fond est complètement éludé. Et je trouve qu'on mérite un peu mieux. Et par ailleurs, les politiques s'y prêtent. Je pense à l'émission de Karine Lemarchand qui s'appelle Une ambition intime, qui a été créée en 2016 et qui a été reconduite en 2019, où des élus ont participé à cette émission. Donc Karine Lemarchand, qui est quand même étiquetée télé-réalité, puisqu'elle présente L'amour est dans le pré, elle est animatrice. Donc des candidats sont allés se poser sur son canapé pour parler de tout sauf de politique, c'était ça le pitch.
Marine Le Pen a parlé de ses chats.
Exactement, il y a Rachida Dati qui est allée aussi. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'intime est devenu un argument pour rallier les électeurs et pour gagner en sympathie. Et puis, il y a eu aussi en 2022, pour la présidentielle, Magali Berda, qui est l'ex-papesse de la télé-réalité.
Elle allait faire des interviews de politique. Elle a interviewé aucun, c'était
Zemmour. Mélenchon, Anne Hidalgo. Et donc, il y a évidemment que les codes infusent partout, même sur les réseaux sociaux et la mise en scène de soi. Il suffit de regarder le compte Instagram de Gabriel Attal. L'intime est devenu quelque chose à mettre en avant et ça vient aussi de la télé-réalité.
Sacha ?
Mais alors du coup, est-ce que la télé-réalité telle qu'on la voit sur nos télés, elle n'est pas dépassée ? Secret Story, tout ça, c'est pas du tout les mêmes audiences qu'en 2007-2008. Et du coup, deuxième question, est-ce que la télé-réalité, finalement, c'est pas une bulle qui a... Enfin, la télé-réalité version télé, c'est pas une bulle qui a duré 20 ans, et qu'est-ce qui va en rester ? Enfin voilà.
Quel avenir.
Quel avenir.
Est-ce qu'on est à la fin?
En fait, on est à la fin d'un cycle. Okay. Les audiences, il y a une hémorragie d'audience sur les émissions de dating particulièrement. Le dirigeant de W9 a annoncé la fin des Marseillais. En 2022, j'étais super triste. Il y a eu la fin des Anges, évidemment, en 2019. Les émissions de dating s'arrêtent. En revanche, les boîtes de production parient sur le jeu et la stratégie. Donc, il y a les 50 qui ont très bien marché. Une sorte de Squid Game, mais avec des mecs déguisés en lion. Enfin, c'est particulier, c'est une ambiance, quoi. The Power aussi, qui est basé sur le jeu. Et Secret Story, qui est une sorte de En fait, Endemol, qui est la boîte de production qui a fait le Loft et qui a fait beaucoup de télé-réalité pendant 20 ans, a décidé de faire une télé-réalité à l'opposé total de ce qui a été fait pendant 20 ans. Et ça se voit dans leur com. Déjà, ils sont super transparents. Tu peux rencontrer Endemol quand tu veux, quand t'es journaliste. Ils ont lu un règlement à chacun des candidats. Le clash est interdit. Tout est fait pour qu'il y ait de la stratégie et du jeu et pas de clash ou de cul. L'idée, c'est de faire des programmes comme pour la Star Academy précédente, là, intergénérationnels, gentils, et bienveillant. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, t'as quoi ? T'as Frenchie Shore qui est ultra trash, qui est irregardable parfois. Enfin, vraiment, je lâchais des cris. Enfin, bref. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, je trouve que ça reflète vraiment une société un peu le cul entre deux chaises, avec d'un côté cette ultra bienveillance où les gens, d'ailleurs, les anciens vont dire on peut plus rien dire, on peut plus rien faire à la télé. Et que les jeunes aiment beaucoup aussi, hein, parce que la Starac, ça a bien marché. Secret, les audiences sont pas dingues, mais elles sont bonnes sur la plateforme et sur les réseaux. Et de l'autre, Frenchie Shore qui est une sorte de truc d'ovni, mais complètement hallucinant, où tout est hypertrophié, quoi.
Malek,
Plusieurs questions. On faisait un petit lien télé-réalité et politique. Il n'y a pas que Constance qui était triste de la fin des Marseillais. Il y a aussi Éric Dupond-Moretti qui avait dit en 2021 sa passion secrète pour les Marseillais. Oui, je le cite, hein, il aime tout chez les Marseillais. Qu'on puisse accepter de s'enfermer dans une cage, accepter d'être filmé en permanence, c'est quelque chose qui le fascine. Moi, j'ai.
Ok, Éric.
Moi, mais c'est Éric, on respecte. Okay. Hein, nos soucis, Rico.
Tu nous fascines aussi, hein, faut le dire.
Deux questions, Constance. Parce qu'on s'est vu il y a deux semaines, on avait déjà débriefé un peu de Secret Story, nouvelle version.
La fausse maison, la vraie
maison. La vraie maison, la fausse maison, bref, tu connais. Qu'est-ce qu'on en pense, là, de cette nouvelle formule centrée sur le jeu?
Et
je te pose ma deuxième question parce que je pense que c'est un peu lié. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une émission de télé-réalité éthique et safe?
Alors, moi, je pense que cette saison, elle est plutôt pas mal, mais que je ne suis pas le public. Je suis tellement habituée aux autres formats qui sont... En fait, il faut savoir que...
Amélie, on t'embrasse.
En fait, le Loft, par exemple, à l'époque, les téléspectateurs avaient carrément dit qu'ils s'emmerdaient en regardant parce que les candidats n'étaient pas assez stimulés.
C'était ennuyant. Ouais.
Et au bout d'un moment, comme les moyens ont baissé, il y a de moins en moins de caméras pour filmer, par exemple, les Marseillais ou la Villa des Cœurs Brisés. Et une demi-journée de tournage représente un épisode de 45 minutes. Donc, il faut qu'il se passe des choses. Donc, les candidats, ils vont être surstimulés et il n'y a que 4 caméras. Donc, ils vont rejouer des scènes, on va provoquer des disputes, on va essayer de mettre des gens en couple, on va créer énormément de séquences. Donc moi, je suis habituée à ça, au clash permanent, aux cris et à des gens qui s'embrouillent pour de la salade.
Et la télé-réalité éthique.
Oui, Secret Story, j'ai...
Cette année, on y est un peu.
On y est parce que c'est plus lent. En fait, on revient à quelque chose de plus... où la temporalité est plus lente et où les gens sont gentils.
Alexis et Zoé, ça a l'air safe, c'est cool, ça se passe bien.
Et pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont encadrés. Le petit suçon là. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils sont beaucoup plus encadrés avant, pendant et après, chose qui n'était pas du tout le cas psychologiquement avant. Avant, il suffit de regarder, d'écumer un peu les biographies de candidates, comme je l'ai fait, de les rencontrer ou de regarder leurs interviews. Les candidates de télé-réalité sont toutes polytraumatisées, ont vécu des violences, et c'est vrai que on leur fait passer un examen psychologique de 10 minutes, mais clairement, c'est pas suffisant. C'est des boîtes, les boîtes qui font passer ces examens sont payées par les boîtes de production. Donc évidemment qu'elles vont pas sortir certains profils. Et donc il y a pas de suivi avant. Et c'est des candidates très très fragiles. Là, on voit qu'ils ont fait beaucoup plus attention à qui ils mettent dans cette vraie fausse maison. On sait pas.
Est-ce que t'as déjà regardé ma télé-réalité préférée, les questions d'actualité au gouvernement?
Je trouve ça, ouais.
Parce que c'est une télé-réalité.
Ça manque de cul.
Ça manque énormément de cul, mais. Moi, quand j'avais 15 ans.
Je pense qu'on n'est pas au courant de tout, surtout. Hein.
Je pense qu'on n'est pas au courant de tout et que les caméras ne sont pas au bon endroit.
C'est con, il n'y a pas de.
C'est vraiment
de
dommage. Mais moi, quand j'avais 15 ans, ça me fascinait ce truc-là, tu vois. Une bande de vieux en costard qui se clash. Et c'est vrai.
Mais il y a du clash, tu vois.
Il y a du clash complètement. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc.
Mais pareil,
Jean, on rappelle que tu as 55 ans en vrai.
Mais
aussi.
Moi, ça fait 20 ans que ça me fascine, voilà. Les questions d'actualité au gouvernement. Chers amis.
Excuse-moi, je vais juste balancer ça parce que je me retiens là depuis 1 minute 30. Les rares fois où on entend parler de queue aux questions au gouvernement, malheureusement, c'est pour des relations qui ne sont pas consenties.
Bref, ouais. C'est vrai.
Ceci étant dit, il y a PEMF qui a demandé un talk de 5 heures entre Constance et Wam. Bah, c'est quand tu veux.
Ça part
en prod. Let's go. Chers amis, ça s'appelle Vivre pour les caméras, écrit par Constance Villanova. C'est aux éditions JC Lattès. N'hésitez pas à vous procurer, c'est un livre exceptionnel. Merci beaucoup Constance d'avoir accepté notre invitation. Merci sur le plateau de Baxit.